There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir dû me ramasser des tonnes de fois, vraiment bien, de me prendre de vraies grandes claques existentielles pour comprendre, tu vois.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Gringe. Gringe est la moitié des Casseurs Flotteurs, le groupe de rap qu'il a fondé avec Orelsan. Il est également acteur, on l'a vu aux côtés d'Orelsan dans la série Bloqué et le film Comment c'est loin. Il sera prochainement à l'affiche de 3 longs métrages et il prépare également son premier album solo. Bref, Gringe n'est plus du tout bloqué. On revient sur son parcours tumultueux de ses débuts dans le rap à sa rencontre avec Orelsan. Il parle longuement de ces périodes difficiles qui ont posé un socle et explique l'importance de laisser du temps au temps. On parle de son album solo, de son nouveau travail d'acteur, de son processus créatif, tout ça en dégustant quelques caramels normands. Pensez à vous abonner en cherchant Nouvelle École sur iTunes ou SoundCloud ou sur votre application de podcast préférée, ça m'aide énormément et bonne écoute.
Mais pas d'autocensure. Hein.
Non, non.
Si je me foire, je me foire, je me réveille à une demi-heure, il est 15h30.
Ouais, bah ouais.
Donc voilà, j'ai un peu l'esprit embrumé.
Fidèle à ta légende en
ouais,
fait.
Ouais, ouais, c'est même plus une légende, c'est... C'est avéré maintenant.
Attends, mais tu fumais pas des clopes toi normalement ?
À fond. Mais putain, en ce moment, comme j'écris l'album, genre, je suis à un paquet, même plus d'un paquet par jour.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que si tu veux, on prend un standard et tout.
Mais j'ai pas ramené de clopes.
Tu veux qu'on aille en acheter ?
Non.
D'accord.
Non, non, on est au thé, c'est très bien.
Ok, super. Carrément. Bon, bah, on peut commencer.
Yep.
Eh ben. Salut à tous ceux qui écoutent. Je suis avec Gringe. Guillaume Tranchant. Gringe, on présente comment maintenant ?
Eh ben, bizarrement, mais ma mère m'a rebaptisé Gringe depuis mon petit succès. Non, tu m'appelles comme tu veux. Guillaume ou Gringe, franchement, il y a pas de, c'est non, la même chose.
Je vais t'appeler Gringe. Moi, je te connais en tant que Gringe plutôt. Donc, Gringe, je te présente rapidement, même si je pense que les gens qui écoutent vont savoir qui t'es. T'es la moitié des Casseurs Flotteurs avec Orelsan. D'ailleurs, ouais. Avec qui vous avez fait plein de trucs entre le premier album. Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flotteurs. C'était en 2013. Je crois que vous avez fait Disque d'Or avec.
Yep.
Vous avez fait le film Comment c'est loin que Orelsan a écrit et réalisé.
Ouais.
Vous avez fait l'album de la bande originale du film.
Exactement.
Qui a même fait disque de platine d'ailleurs.
Ouais, mais le premier aussi a fait platine maintenant.
Ok.
On se la raconte pas trop, on veut pas. C'est pas façon, en soi, c'est pas ce qui nous. C'est pas ce qu'il y a de plus gratifiant. Ce qui est chouette, c'est que les gens suivent le délire, quoi. Ils nous supportent, mais bon, on communique pas trop sur ce genre de trucs.
Non, non, mais c'est. Pour remettre les gens dans le mood. Et quoi d'autre ? Bah oui, et aussi bloqué. En tant que il y a bloqué, voilà,
ouais, ouais.
que vous avez coécrit avec Orelsan, avec son frère,
avec Clément, avec Flaubert, Golden Moustache,
Kian et Navo, donc Navo et Flaubert qui sont passés là-dessus.
Et puis produit par Harry Torgeman, voilà,
qui était le producteur de Bref aussi. Ouais. Et en ce moment, t'es bientôt à l'affiche dans un film. Qui s'appelle Carbone.
Ouais, ouais, ouais. Film d'Olivier Marchal.
Qui avait réalisé Braco d'ailleurs.
Ouais, entre autres, et la première saison de Braco. Puis après, il a fait des films. Il a fait MR73, Le 36, Diamant 13. Enfin, il a fait une tripotée de films. Mais je me rappelle, si je peux me permettre une anecdote.
Mais vas-y, on est là pour ça. Hein.
De bon matin. Je me rappelle à l'époque où je vivais à Caen, où j'étais entre chez Aurel et chez moi, j'avais un tout petit appart, hein, 15 mètres carrés, et je végétais. Et c'était vraiment la décrépitude totale. Et je me bouffais des séries, et je fumais des ouinges. Et je me rappelle de Braco, la première saison, je me l'étais englouti vraiment à vitesse grand V. Et je bats souvent les making-of, parce que je suis un amoureux du cinéma. Je suis un amoureux des comédiens plus que du cinéma depuis que je suis gamin. Donc je suis toujours curieux de voir comment ils bossent et d'essayer de un peu percer leur psychologie. En battant les making-of, et j'étais tombé sur une séquence avec Nicolas Duvauchel, justement, qui s'éclatait avec Olivier Marchal, et je me disais, mais putain, mais quelle chance il a. Et j'avais aucune velléité à être comédien, tu vois, à l'époque, je savais pas ce que je voulais foutre et tout, mais j'enviais la relation qu'il avait avec Marchal, et je me disais, mais c'est vraiment, ça doit être un papa de cinéma mortel. Et ce qui est fou, c'est que, ouais, on a tourné ce film avec Aurel, comment c'est loin. C'est un film qui a été, il a pas été sélectionné. On a fait le festival de Saint-Jean-de-Luz il y a 2 ans. C'est un truc projeté hors concours, quoi. Et Marshall est venu le voir et a kiffé le film et est venu me voir juste après, un peu de temps après, pour me dire qu'il avait un rôle à me proposer. Voilà, c'est assez surréaliste, mais tout est parti de là, en fait, quoi.
Tu t'es dit quoi quand il t'a dit ça? Parce que
j'ai pas cru, parce qu'il était. C'était je crois qu'on était, c'était la fête de fin de festival, donc on avait bu des coups machin, il était jovial, on va dire, et je connaissais un peu sa réputation de mec entier, de mec un peu brut de décoffrage, et je m'étais dit bon voilà, il le dit sans le penser, c'est cool, il a vu le film, ça l'a fait marrer, je lui ai plu visiblement, mais je pensais que c'était une parole en l'air, et 2 semaines après il s'est démerdé pour trouver mon numéro de téléphone, il m'a appelé. Et voilà, quoi.
C'était pas
une parole en l'air. Salut Guillaume, c'est Olivier, tu vas bien? Il m'a proposé le truc, il m'a fait une proposition ferme, quoi. J'ai même pas eu de casting à passer, et j'en revenais pas. Et je lui ai dit, quoi. Je fais, mais bien, les yeux fermés. J'ai pas besoin de lire le scénar que je signe les yeux fermés. Marshall fait partie de mes contemporains, en tout cas. Cinéma français, c'est vraiment un mec qui a une âme, une écriture qui lui appartient, hyper précise, hyper noire, et ça me parle énormément, ça me plaît beaucoup.
C'était comment alors du coup de faire le tournage avec lui? Il y avait Benoît Magimel, je crois.
Il y avait Benoît, il y avait une flopée de bêtes bons comédiens, il y avait Patrick Catalifo qui est un putain de comédien aussi, il y avait Michael Youn, il y avait...
Depardieu, non?
Il y avait Depardieu, mais alors j'ai pas eu l'occasion ni de le voir jouer ni de tourner avec, on n'a pas de scène ensemble. Depardieu, ouais, il a quelques séquences dedans. Bon, Moussa Mascri, Farid Larbi, Idir Schender, qui est devenu mon ami, qui joue le rôle de mon petit frère dans le film, qui est un mec qui vient du conservatoire et qui a tué ça. J'assiste à l'émergence d'un futur grand comédien français. Enfin, un mec, en tout cas, qui a de l'avenir dans ce métier et qui m'a appris tout un tas de choses juste en l'observant au gré de nos discussions. Il m'a vraiment appris il m'a filé des méthodes, tu vois, de travail. Moi, je suis arrivé à poil, je viens pas de la comédie, j'ai jamais pris de cours de théâtre, de quoi que ce soit. Et sur Comment c'est loin avec Aurel, on était plus en laboratoire, tu vois, on faisait au feeling, on faisait...
Vous jouiez vos rôles, en plus.
Et puis on jouait nos rôles dans nos décors, on racontait une... on jouait des persos qui est sans filtre, quoi. Donc c'était sorti de ma zone de confort, me retrouver parachuté sur un gros tournage, grosse équipe avec un grand réal et de grands comédiens.
Mais t'as pas fait un petit complexe au début?
Si, la première semaine, c'est-à-dire que la première semaine sur des scènes de jeu, j'avais la moitié de mon esprit qui était concentré à ce que je devais faire. Et l'autre qui regardait jouer les Benoît, qui regardait les mecs jouer, en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Mais putain, qu'est-ce qu'ils sont bons. J'étais tellement bluffé par leur qualité de jeu, que souvent je sortais des scènes. Et, à la fin de la première semaine, Olivier est venu me voir en me disant, Guillaume, t'as l'air un peu crispé, je viens de voir les premiers rushs et tout, ça va bien se passer, t'as une belle gueule, tu fais le job, détends-toi. Et ça a eu tout l'effet inverse, en fait. Je me suis dit, putain, il est en train de me dire que je suis pourri. Il va falloir que je tienne un mois et demi et tout, je suis vraiment dans la merde. Et pour la petite histoire, je venais de me faire tèche quelques jours avant le tournage par mon ex, qui était sortie d'une longue relation, tu vois. Elle a timé timé notre séparation quelques jours avant que je tourne. Donc je suis arrivé là totalement déphasé, tu vois, paniqué, groggy. C'était un mélange de plein de trucs. Et du coup, Idir Schender m'a vachement épaulé. Olivier aussi.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ou comment ils ont fait?
Ils m'ont amené un certain lâcher prise, si tu veux. On a discuté, j'ai senti que c'était hyper bienveillant et ils m'ont mis en confiance et puis il y avait une si belle ambiance, on va dire. C'est les tournages de Marshall, c'est en équipe, c'est une famille qui bosse avec lui. Il bosse souvent, enfin, j'ai compris qu'il bossait avec les mêmes personnes depuis très longtemps. Et du coup, il y a une espèce d'ambiance un peu collégiale, familiale. Après, quand on tourne, c'est pro, quoi, mais entre les scènes, tu sens qu'il y a quelque chose d'hyper bienveillant, que les gens s'éclatent et ils sont hyper humains, en fait. Il y a un truc très terre à terre et pas du tout très pompeux ou, j'ai rencontré Benoît aussi. Benoît qui est un mec incroyable, une espèce d'encyclopédie du cinéma. Enfin, j'ai eu des discussions.
Benoît Magimel,
ouais. Qui est un mec adorable. Et pas forcément l'idée qu'on s'en fait parce qu'on on a toujours le prisme des médias, des trucs et de la caricature qu'on peut te faire d'un mec qui a une couille à un moment donné relayée dans les médias et tout. Et ce mec, il était tout l'inverse de l'idée que je m'en étais faite, tu vois.
Ouais, ça, moi, c'est un truc que je vois beaucoup avec ce podcast. C'est qu'à chaque fois, je vais rencontrer des gens dont j'ai déjà finalement une idée. Je me suis déjà fait une idée sur eux parce que j'ai vu les vidéos, j'ai lu les articles, etc. Et en fait, généralement, quand j'arrive, je découvre une personne qui a rien à voir. Et
c'est parce qu'il y a une attitude, c'est pas une réflexion vraiment savante, mais je me dis que avoir une image publique te t'installe dans des postures un peu fausses parfois, tu vois, ou mais par nécessité de se protéger ou juste parce que t'es dans c'est un truc qui t'échappe, parce que t'es dans une telle effervescence, t'es dans c'est délicat, c'est assez schizophrénique, hein. Moi, les premières années, quand on a fait le premier album avec Aurel, j'ai eu vachement de mal à dépareiller la personne que j'étais, tu vois, l'artiste que j'étais en train de devenir. Et voilà, le regard de l'autre. J'ai souvent entendu dire le succès fait changer les gens. Alors à ma moindre échelle, je me suis rendu compte que c'était les gens autour qui changeaient. Le regard des gens pouvait changer sur toi, sur ta condition, sur
comment
la famille, les amis.
C'est
un truc hyper... c'est assez déroutant quand d'un coup tu te retrouves... je sais pas, tu fais un repas de famille. Moi, ça m'arrive peu, moi, parce que je suis un mec très casanier, mais j'en fais de temps en temps, tu vois. J'essaie de faire acte de présence. Et d'un coup, quand tu te retrouves au centre des discussions et que tu deviens un peu une bête de foire, un sujet d'étude, même pour les tiens, tu vois, il y a un côté un peu dégoûtant. Il y a un truc qui te dégoûte de toi. Tu dis non, mais pas eux, quand même, tu vois, c'est les gens qui me connaissent.
Tu pensais que ceux-là n'allaient pas faire
ça,
justement.
Ouais. Je pensais que ceux-là garderaient le même regard, mais il y a toujours un espèce de truc comme ça, que ce soit chez les potes ou la famille, tu vois, voilà, un regard qui est un peu tronqué, mais je m'y suis fait.
Comment tu fais pour t'adapter à ça? Tu changes quelque chose ou tu...
Non, moi je discute, mais non, mais moi en plus, vraiment, je crois que j'ai vraiment aucun filtre. On m'a souvent dit, même en interview, pendant mes premières interviews télé ou radio, on me disait mais fais gaffe à ce que tu dis, on sait que je suis impulsif, que je dis ce que je pense, en fait avec le temps, même si ça fait seulement 3 piges 4 piges, tu vois, genre je me suis dit que j'aimais pas réfréner ma nature, tu vois, j'ai pu dire des conneries, tu vois, chez Ruquier j'ai parlé d'Anouna, j'ai dit que je
c'était la télé-poubelle, poubelle,
que machin. Alors que c'est un mec qui nous avait accueillis 2 fois et que c'est un mec qui nous avait accueillis en plus, qui avait été hyper accueillant et plutôt sympa. C'est voilà, c'est des petits trucs comme ça où d'un coup, je vais pas forcément prendre en compte le contexte et le cadre dans lequel je prends la parole, tu vois, et je vais dire, je vais balancer ma pensée profonde. Je sais que c'est pas forcément un truc qui pourrait me servir, tu vois, c'est plus un truc qui pourrait me desservir, et du coup j'essaie de faire attention, mais si tu veux je garde la même spontanéité, voilà.
Est-ce que c'est pas aussi cette spontanéité qui fait que les gens se sont vachement identifiés au Casseur Flotteur ou à tes chansons ou à Orelsan, tu vois?
Ouais, peut-être.
Il y avait un côté en tout cas toi dans Casseur Flotteur ou même en solo, t'as toujours été très finalement assez violent dans les thèmes, les textes, ouais. dans le sens où c'était très brut, tu vois.
Ouais.
Et moi, je sais que, petite anecdote, mais en grandissant, moi, j'ai découvert, je pense que j'ai découvert Changement vers 2008. Il y a aussi le clip qui est sorti du single avant l'album.
Ouais.
Et là, j'ai découvert Aurel San, j'ai découvert La Question Flotteur. Et je sais que j'ai découvert tes chansons aussi. Donc, tu avais ton couplet sur Tok Tok, il y avait Rat du Macadam, il y avait ce genre de trucs qui étaient
ouais,
sur Internet.
Des morceaux un peu isolés.
Et je me disais toujours, c'est dommage, il n'y a pas assez de gringe, tu vois, parce que je m'identifiais presque plus dans le sens où j'avais un. Comme tu parlais vraiment ultra profondément de certaines choses, le côté parents séparés, etc.
Ouais.
Et que moi, j'avais ces choses-là que j'avais vécues.
Ouais.
Je trouvais que c'était... j'avais presque envie qu'il y ait plus de grains sur,
ouais,
sur les...
Il y a un effet miroir un peu.
Tu vois.
On m'avait dit, j'étais hyper sceptique, moi, quand j'écrivais mes premiers morceaux. C'est pour ça que il y en a très peu qui sont sur le net aujourd'hui, tu vois. Parce que finalement, j'ai refusé d'en balancer plus. J'en ai pas non plus enregistré des masses, on va dire ce qui est, tu vois, j'étais quand même hyper feignant déjà à l'époque. Mais j'étais surtout un éternel insatisfait et un éternel flippé, tu vois, je flippais de savoir comment allait être reçu le morceau. Et je me rappelle d'une discussion avec un pote qui, en écoutant Radio Macadam, m'avait dit, mais tu sais que moi ça me touche, puis il y a des grandes chez moi, genre t'as même mis l'alarme à l'œil d'un mec, genre... une carrière, tu vois, genre tu te rends pas compte en fait le pouvoir de tu vois de des mots de enfin en tout cas de ta dans une démarche sincère comme tu l'es dans tes chansons, tu vois, ça se ressent et les gens s'identifient. Et après voilà, j'ai fait quelques morceaux, mais je t'ai dit j'ai jamais eu pour ambition d'être rappeur. J'ai une grande passe à mes 20 piges, on va dire. Peut-être commencer un petit peu avant, et pendant quelques années je m'étais dit je vais tout niquer, je vais faire du rap, et voilà, je me prenais la tête avec mon père à l'époque où j'y vais encore chez lui, et il me disait mais je vais casser le cul pour que tu deviennes rappeur, tu vois, tu fais un truc de ta life.
Ce qu'il faisait quoi ton père?
À l'époque il bossait dans une... il a fait du chemin depuis, mais on va dire qu'il est dans le milieu artistique aussi, mais aujourd'hui il dirige une scène nationale dans le sud, il a toujours travaillé dans le milieu du théâtre. Il a commencé dans une MJC, tu vois, genre il a vraiment grimpé les échelons en un, et je sais qu'il s'est il a peiné pour se défaire du, tu vois, de son carcan social, de l'environnement dans lequel il avait grandi, hyper modeste, et du coup il voyait ça d'un œil pas ça d'un bon œil, tu vois, il sentait que j'étais déloyal et que c'était pas l'éducation qu'il m'avait donné, et que il voyait pas où je voulais en venir, et que c'était pas un truc qui me mettrait à l'abri. C'était une parole de père, tu vois, tout simplement.
Et toi, comment tu le vivais, ça?
J'étais un mec têtu et depuis petit, en fait. Depuis petit, je fais ce qui me chante, je crois. Tu vois, j'ai toujours été une galère pour les autres.
J'allais dire.
Tu fais ce que quoi? Pardon. Un jeu de mots avec?
Oui.
Vas-y, je t'en prie, je me reprends un caramel de ta grand-mère en attendant.
Ouais, non.
Fais-nous ton jeu de mots.
Non, c'était le jeu de mots, c'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire.
Oui, parce
que. Ce qui me chante.
Voilà.
Ouais.
Bon.
Ouais, c'est comme ça. Hein. J'étais prédestiné à faire ce qui me chante.
Ouais.
Non, mais j'ai grandi comme ça avec ce caractère-là, et du coup.
Faut essayer les noisettes s'il en reste. Mais normalement,
normalement
il n'y en a plus parce que je les ai tous fumés.
Tu les as tous fumés. Mais
ouais, tu disais que t'as toujours fait ce qui te chante du coup.
Ouais. Donc j'ai continué à écrire comme un taré dans ma chambre.
T'avais quel âge là à ce moment-là?
17 ans.
Quand le rap, t'as commencé le rap vers 17 ans?
J'ai commencé à en écouter à 14-15. Je me suis dit, j'ai commencé à écrire vers 16-17.
Avec Vanilla Ice, Lil Baby. C'était quoi déjà? Le single?
Little Baby, Ice Ice Baby.
Ice Ice Baby.
Zulu qui était Vanilla Ice, qui était la risée de tous les.
J'ai découvert Vanilla Ice à travers les morceaux de Eminem qui clashaient Vanilla Ice.
Ouais.
Voilà.
À l'époque, nous, quand on écoutait, c'était une tuerie, tu vois. C'était comme MC Hammer, il a eu un peu plus de crédit, on va dire, quand il a sorti Can't Touch This. Il avait un côté Africa Bambata, un truc machin. Mais Vanilla Ice, ouais, c'était un mec. Avec la coupe à Desireless, avec des grands baggy Zulu, tu vois, genre qui faisait le Renoir et qui dansait, enfin qui enchaînait des pas de b-boy foireux, tu vois. Mais c'était un truc qui avait cartonné. J'ai vite compris que c'était pas ça le
game,
le rap, et que il y avait une histoire derrière cette musique. Et voilà, donc j'ai découvert plein de trucs grâce à des potes. J'achetais, je récupérais beaucoup de mixtapes à l'époque aussi, les cassettes dans les boutiques, il y avait encore des boutiques de sap Boulerotte ou tu vois, Royal Wear, des trucs, première marque de sap en France et tout, un peu streetwear. Et je récupérais du son partout où je pouvais. J'étais amoureux de cette musique et amoureux des mots, donc j'écrivais, je passais des journées entières à écrire. Puis j'ai rencontré Aurel en déménageant à Caen, en partant de Cergy. Et là, on s'est fait un trip, on monte un groupe rapidement et on s'éclate, quoi.
Il est venu te chercher dans le magasin de skate où tu passais,
Je tombe amoureux de ce mec. Il est venu avec un style complètement surréaliste. C'était un pur autiste, quoi. Et
Les auditeurs, Aurel San.
Aurel San, ouais. C'était un pur autiste et j'ai été charmé direct, quoi, parce qu'il m'a dit j'ai entendu parler de toi. J'ai une carte son, machin. On achète un micro. Viens, on fait un groupe. J'ai dit ok. On s'est lancé dans le truc direct, quoi.
En fait, il était déjà vachement entrepreneur.
Ah ouais, Aurel, ouais. C'est une de ses grandes forces. C'est qu'Aurel, il c'est un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, il va pas seulement, il va se donner les moyens de faire les choses. Et par exemple, quand il fait Commencer Loin, qu'il a jamais fait de cinéma avant, et lui, il va te dire très modestement en interview, ouais, mais en fait, c'est la portée de tous de faire un film. Tu peux même prendre ton iPhone et filmer, tu vois. C'est filmer des images, machin. C'est faire du cinéma, tu vois, où c'est, vérité, il a décortiqué tellement de bouquins, il a rencontré tellement de gens, il a réécrit tellement de fois son scénar, et il a fait des lectures et jusqu'à en garder le premium, tu vois, et voilà, c'est sa grande force. Aurel, c'est une locomotive, quoi.
Donc on a une impression de simplicité, mais en fait derrière il y a une énorme.
Pour avoir cette impression de simplicité là, il y a énormément de travail.
Ouais.
Aujourd'hui, là, il est en roue libre, hein, tu vois, genre, il a ses automatismes et tout. J'ai eu la chance d'écouter son troisième album. C'est un petit chef-d'œuvre. Ouais. Je pense que si c'était pas mon pote, Aurel, c'est un truc que j'ai déjà pu dire par le passé, mais si c'était pas mon pote, il aurait fait partie des artistes que j'aurais écouté de toute façon, tu vois, et il fait partie de nos contemporains aussi.
Toi, quand tu l'as rencontré, t'avais environ 17 ans, c'est ça?
Non, je suis monté à Caen, j'avais la vingtaine.
Ouais. Là, tu faisais du rap depuis quelques années déjà, en fait.
Ouais, mais de manière confidentielle, tu vois, j'en faisais dans ma chambre, sur des faces B, des trucs, j'enregistrais rien, tu vois, ou sur des dictaphones.
T'habitais chez tes parents, en fait, là.
Ouais, là, j'habite encore chez mes parents, puis mes parents se sont barrés assez tôt, en fait. C'est marrant parce que d'habitude, c'est les gamins qui quittent le foyer, foyer familial, et là, c'est eux qui se sont barrés de chez nous.
Ah ouais?
Ouais, ils sont barrés de Caen pour, quand on est monté à Caen, on y a vécu quelques années, c'est là que j'ai rencontré Aurel. Et puis, ils ont fini par se casser dans le sud, et moi, je suis resté parce que j'avais une nana et tous mes potes. Et que j'en avais marre de bouger. On avait été baldingués toute notre enfance avec mon frère, tu vois. J'en avais déménagé des tonnes de fois.
Pourquoi vous aviez déménagé tant que ça?
Pour le boulot de mon père. Pour le boulot de mon père. Et du coup, voilà. Au début, ce que je pensais être une punition en arrivant à Caen, je m'étais dit, merde, putain, je me retrouve, je viens de Serge, je vais acheter un petit banlieusard tout pourri, tu vois. Et je me disais, qu'est-ce que je vais foutre avec des babos et des mecs qui font du jumbé, fument des ouins, j'allais rentrer. Ah, je vais me faire yesh. Et j'ai rencontré les personnes fantastiques qui m'ont grâce auxquelles je me suis émancipé, tu vois, dont Aurel.
Tu penses que la province c'était presque une opportunité, c'est ça?
Ouais.
Pour
ouais. Après coup, c'était une jolie punition, parce que quand je regarde un peu le chemin parcouru, il y a eu de longues périodes d'oisiveté très chiantes, parfois même où j'étais résigné, tu vois, ne plus rien foutre de ma vie, et j'étais pas loin de... Il y a un syndrome, je sais plus si c'est un syndrome de Diogène ou Diogèse, tu sais, quand tu clochardises. J'avais un petit appart et sincèrement, j'étais pas loin de, s'il y avait pas eu les potes à côté, je pense que j'étais pas loin de me retrouver en rupture totale avec le coupé du monde, quoi. Parce que je branlais plus rien et puis que j'avais plus aucune volonté de quoi que ce soit. J'étais dans le gouffre.
Et c'était quand t'avais quel âge, ça? Parce que c'est vrai que quand on regarde ton parcours, il y a un trou un peu. Enfin, c'est pas qu'il y a un trou, mais on se dit, de 20 à 30 ans, il y a des moments où tu sors des morceaux, où tu fais des trucs avec Aurel, il y a Saint-Valentin qui sort des trucs comme ça.
De 20 à 30 ans.
C'est ça?
De 20 à 30 ans, ça a été chaotique. Ça a été, ça a été sinué en permanence, avec quelques moments d'accalmie et rencontres avec des copines, tu vois, des relations qui ont pu être sérieuses à des moments, les potes. Qui sont toujours ma deuxième famille, tu vois, ma famille de cœur, et qui m'ont quand même bien épaulé, et ils ont été une vraie bouée de sauvetage aussi par moment. La famille, tu vois, j'ai toujours été très proche de ma mère, ça a été un parcours assez chaotique, mais ça a été un mal pour un bien. parce que je pense que c'est ces années d'errance là qui m'ont forgé aussi ce, non, je serais, qui m'ont forgé cette vision particulière de, en tout cas peut-être plus cette faculté d'observation. Je suis quelqu'un qui, je m'étais dit, je suis venu sur Terre pour contempler, tu vois. J'ai pas d'ambition de d'être quoi que ce soit. J'ai pas spécialement envie de bosser dans telle ou telle branche.
Et ça t'angoissait pas, ce côté
Si, je le vivais hyper mal.
Ouais.
Ah ouais, à fond. Je suis toujours un mec hyper anxieux, tu vois. C'est marrant parce que cette anxiété s'est un peu transformée. On va dire que l'anxiété que j'éprouvais quand j'avais rien et que j'avais plus la force d'entreprendre quoi que ce soit et que je végétais, tu vois, elle s'est transformée en une anxiété depuis que je bosse. En une espèce d'anxiété, tu vois, qui se traduit par la peur de tout perdre et de me dire putain, j'ai tellement pas envie de retourner manger des cailloux. Et entre temps, j'ai appris à me donner aussi les moyens, tu vois, et à m'épanouir. Je me suis tellement plus épanoui depuis la musique et le cinéma et les rencontres que j'ai fait, tu vois, ces dernières années. Et ça m'a vraiment sauvé. Et c'est en ça, tu vois, que ces années d'errance-là, en fait, après coup, j'ai réalisé à quel point elles avaient pu me servir. J'avais pu poser un socle, tu vois, quelque chose de... J'ai eu le sentiment d'avoir touché le fond tellement de fois. Mmh. Et en fait, tu le touches jamais vraiment. Il y a toujours une planche qui pète et tu peux toujours descendre de 15 mètres de plus. Et en fait, le fait de m'être ramassé à ce point-là, tu vois, fait qu'aujourd'hui, j'ai des voyants qui s'allument dans ma tête quand ça va pas. Tu vois, je suis en alerte. C'est-à-dire que là, quand je sens que je peux... rebasculer ou faire de la merde ou
t'as des réflexes?
Ouais, j'ai des réflexes de survie et de...
C'est quoi tes réflexes du coup maintenant?
C'est des trucs que je me dis, tu vois, je pourrais pas en parler, c'est trop perso, mais il y a vraiment des signaux qui s'allument, des trucs que je me dis, ah là c'est marrant, tu t'apprêtes à faire une merde, et ben voilà ce que ça traduit chez toi. Je vois une psy aussi. Je fais le mec.
Ouais, mais moi aussi, mais, hein, t'inquiète. Ici on est sur
identifier, tu vois, genre le mec que j'ai été, et puis les démons qui, comme tout à chacun, tu vois, les démons qui m'habitent.
Est-ce que c'est pas aussi que cette longue période d'observation dont tu parles et où tu touches le fond pas mal de fois, et est-ce que c'est pas tout simplement une période où en fait t'apprends à vraiment comprendre qui t'es et
à c'est l'école de la vie, mais c'est douloureux parce que tu t'isoles, parce que t'es très seul, parce que les gens à un âge où les gens embrassent des métiers ou sont encore en école ou toi tu passes tes journées seul, tu vois,
tu faisais des études toi ou t'as...
J'ai fait des études très peu, j'ai eu un bac plus 2 à l'époque des DUT, tu vois, genre j'avais un bac plus 2 en communication, que j'ai eu pour faire rassurer ma mère, on va dire, et je l'ai eu à 22 piges ou 21 ans je crois, et j'ai repris mes études il y a 5 ans 6 ans, tu vois, j'ai rencontré une nana avec qui j'ai passé 8 ans de ma vie, pour qui je suis monté vivre sur Paris, et la première année je me faisais un peu yèche quand même, tu vois, et elle me disait mais reprends tes études, et du coup j'ai fini ma licence, j'ai une licence de com,
d'accord,
avec 10 ans entre le bac plus 2 et le bac plus 3 quoi.
Ouais, et donc la période entre 20 et 30, tu voyais tes potes qui prenaient des taf,
qui se réalisaient quoi, qui tu vois, qu'il y avait des...
Faut parler dans le...
Des potes qui se réalisaient, ouais, qui au travers du taf, qui avaient des vies de famille, qui commençaient à avoir des mômes et tout ça, tu vois. Et moi, j'étais toujours à ressasser cette idée que je vivais les choses de l'extérieur, que j'étais incapable de m'installer dans ma vie. Et
parce que t'avais peur t'avais pas envie de choisir un truc ou de...
Ah, c'est le quart d'heure Mireille Dumas, c'est de la bombe.
Ouais.
Non, j'avais pas envie.
C'est des thèmes qui m'intéressent, c'est pour ça. Et moi, je te pose ces questions parce que je.
Non, non, mais ça m'intéresse.
C'est cool. Ma propre thérapie aussi à travers ça, tu vois. Genre, je me dis.
Non, il y avait rien qui me faisait peur. Et tout me faisait peur. Il y avait rien en particulier. Tout me faisait peur. Je me faisais des montagnes, des fois, de choses anodines, tu vois. Mais j'ai quand même rencontré cette nana à l'époque, avec qui j'ai passé 8 ans. Je le dis dans un morceau que je suis en train d'écrire là, qui m'a tiré d'une léthargie profonde, et je dois beaucoup je dois mon salut, c'est un bien grand mot, hein, parce que tu trouveras toujours plus aux abois que toi, mais je l'étais quand même pas mal, et je dois mon salut à cette personne là et à Aurel aussi. Aurel, je sais pas s'il en avait vraiment conscience, mais en me proposant de faire cet album, il m'a offert de me racheter une nouvelle conduite et puis une nouvelle vie, tu vois, de poser des bases, poser des fondations que j'ai solidifiées depuis, tu vois. Mais je pense qu'il n'en avait pas conscience. Il savait d'où je venais, il savait ce que je vivais, tu vois. Mais ouais, je lui donne une fière chandelle quand même.
Vous étiez très proches tout le long, parce que quelque chose que je me suis toujours demandé, c'est tu sais, là, moi, j'entre, pour le coup, j'entre dans la vie. C'est-à-dire, t'as des gens qui commencent à faire des choses, t'en as qui réussissent direct, ils explosent, t'en as d'autres qui galèrent un peu plus. Et je me demandais, comment ça t'a fait quoi, toi, quand Aurel a sorti Perdu d'avance et que ça a marché de ouf?
Ça a été, c'est marrant, c'était très duel, ce qui se passait en moi, tu vois. Il y avait le côté, j'étais hyper fier de lui, parce que depuis qu'on rappait ensemble, depuis nos 20 ans, puis qu'on avait commencé ensemble, je me répétais, je lui répétais sans arrêt qu'il avait un talent fou, et qui à chaque fois, il me surprenait, qu'il se réinventait, que je pensais qu'il avait vraiment un truc à faire. Ouais, c'était hyper naïf à l'époque, tu vois, genre... C'est Scred qui a dû le cadrer pour aussi.
Scred, le producteur.
Ouais, Scred qui nous produit, qui a vachement cadré Aurel pour qu'Aurel prenne conscience, si tu veux, de ses potentiels et qu'il pouvait en faire un job, tu vois. Nous, on en parlait de manière beaucoup plus naïve, mais déjà, je me rendais compte qu'il avait un talent fou et qu'il avait une personnalité atypique. Mais quand il a sorti Perdu d'avance, il y a le côté où, si tu veux, où j'étais très très fier de qui réalise son rêve et qui en plus qui reçoive cet accueil là. Et en même temps, je perdais un pote chez qui je vivais, puis on était plusieurs à vivre chez lui, tu vois, et je le voyais changer de vie, tout simplement, tu vois. Je le voyais s'épanouir au travers d'un job. Et il y a eu j'ai dû avoir des réflexes égoïstes, tu vois, me dire, mais fais chier, ce job, enfin, ces gens que je connais pas avec qui ils bossent, mais me volent mon pote, tu vois, je le vois plus, je le vois moins. Et voilà, c'était plus un truc de manque ou de me dire bon bah ça y est, lui il s'est sorti de la nasse, tu vois, genre et nous qu'est-ce qu'on devient. On était quand même hyper assistés, tu vois, et Aurel sous ses airs nonchalants, c'était pas le seul, Scred aussi et Ablai qui est aussi notre producteur, c'était des mecs qui posaient un cadre, tu vois, là où certains d'entre nous, dont moi, n'en avions aucun, tu vois. Et Aurel, sous ses airs nonchalants, il oscillait entre mec qu'on avait rien à foutre, et puis des fois, mec qui, d'un coup, se cadrait, bossait, et concrétisait les choses, tu vois. Donc voilà, ça a été une période transitoire assez particulière. Puis moi, j'ai rencontré mon ex plus ou moins la même période, donc je suis monté sur Paris pour elle. Et puis on ne s'est jamais vraiment perdu de vue avec Aurel. Il était... tu vois, j'avais un peu accompagné sur sa tournée de Perdu d'avance, même s'il y a eu très peu de dates à cause des polémiques et tout, tu vois. Et après, il s'était remis au boulot pour le Chant des Sirènes, et là, pendant un an, il était encore en laboratoire chez lui, on se voyait peu, mais on gardait contact. Et jusqu'à ce qu'il me dise, est-ce que tu... Moi, j'avais repris la fac, et jusqu'à ce qu'il me dise...
Parce que t'étais sur Perdu d'avance, sur Entre bien et mal, ouais. T'étais sur le Chant des Sirènes, sur Ils y sont cool. Mais finalement, vous voyez pas tant que ça, quoi, en fait.
Non.
Okay.
Mais on n'a pas besoin. Enfin,
ouais, ouais, vous êtes...
Les vrais potes, je pense. Aurel, il y a des évidences en fait qui sont là, tu vois. Et du coup, il sait que je suis très casanier. Je pense qu'il l'est aussi à sa manière. Qu'on n'a pas besoin de se voir pour. On n'a pas besoin de se voir, quoi. Quand on se retrouve, chaque fois c'est cool. Et ça fait un peu vieux couple et tout, mais c'est vraiment ça. Et puis ces 4 dernières années, on a bossé ensemble. On a tellement enchaîné les projets. Et c'était les projets qui n'étaient pas prévus, tu vois. On a fait un premier album. Puis bloqué, puis le film, puis la BO du film, puis des tournées dans tout ça, tu vois. Et donc on a vécu un peu dans une promiscuité permanente, tu vois, les uns sur les autres, et puis l'un avec l'autre, avec Aurel. Et donc ça fait du bien aussi, tu vois, à un moment donné, de couper, et de se réapproprier son indépendance, et de se retrouver son autonomie et se recentrer sur soi. Et puis si on part pas, on se retrouve pas, tu vois. Et du coup, c'était peut-être nécessaire de le faire.
Quand il t'a proposé de faire le premier album des Cassins Flotteurs, est-ce que t'as hésité? Et deuxièmement, ouais. Est-ce que tu t'es mis la pression
c'est
ensuite?
C'est marrant parce que j'ai hésité. C'est marrant que tu le dises. Ouais, j'ai hésité, bien sûr. Je pensais déjà que je savais que j'allais galérer pour me mettre à niveau parce que je pratiquais peu, tu vois, beaucoup moins. Que lui avait déjà beaucoup plus de bouteilles avec Perdu d'avance, les tournées.
Mais en fait, t'avais vachement de talent quand même, parce que si tu pratiquais si peu, En tout cas, ce que tu as l'air de me dire, c'est que tu écrivais quasiment pas trop, que tu enregistrais pas trop de trucs, mais tous tes morceaux qui sortaient étaient quand même défoncés, étaient à chaque fois sur les albums.
Il y a quand même des petites merdes qui sont sur le net, dont j'ai bien honte et tout. Mais... non, mais là, puis en plus, on parle d'un. Il fallait que je passe un step, tu vois. J'avais quand même conscience, au-delà du fait que ce soit mon pote, qu'Aurel, c'était un des meilleurs rappeurs de sa génération, voire peut-être le meilleur, sans chauvinisme et tout. Hein. Genre, je connais vraiment ce milieu et ses acteurs, tu vois. Et donc, j'écoute beaucoup, mais c'est un tueur. Et donc, je m'étais dit. Putain, ouais, ça me branche parce que je viens de me faire tège et que je vais me faire yèche, tu vois, donc ça va me faire une occupation. Mais en le prenant vraiment plus au sérieux, je m'étais dit, putain, va falloir que je me mette à niveau et ça va me demander énormément de travail.
Attends. Alors, ça veut dire qu'il y a 4 ans déjà, tu venais de te faire tège aussi? Ou j'arrive pas?
Ouais, dans mon histoire avec mon ex, il y a eu des débats, machin, il y a eu des séparations. Celle-là avait duré 2 ans.
Ok.
Ou 1 an et demi, tu vois. Et pendant cette période-là, tu vois, j'avais 1 an et demi de. Je m'étais dit, oh putain. Et puis j'étais fracassé, tu vois. Je m'étais dit, qu'est-ce que je vais glander? Non, j'étais quand même bien. Ça m'avait bien entamé, si tu veux, ouais. La séparation. Et du coup, le fait qu'on se lance sur l'album m'occupait beaucoup l'esprit. Et en même temps, j'ai fait mon école du rap, quoi. J'ai vu Aurel bosser en temps réel, Scred aussi. Donc je l'ai beaucoup observé, on a beaucoup discuté, j'ai beaucoup écrit, beaucoup réécrit, et en le réécoutant aujourd'hui, je me rends compte de, que je me suis, voilà, j'avais juste, je pense, m'être hissé juste à niveau, tu vois, pour pas paraître ridicule, mais avec le recul, je me dis putain, c'est quand même.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est hyper scolaire. Dans le flow, dans l'écriture, dans le, enfin, il y a quelque chose de, j'étais vachement dans la réserve, tu vois, et en même temps, je faisais des morceaux, j'enregistrais des morceaux quasiment pour la première fois, hein, tu vois, genre, je suis quasiment jamais allé en studio de ma vie, il y a quelques merdes qui traînent sur le net, mais c'est des trucs.
Tu veux dire que tu t'es presque appliqué une méthode pour être sûr, pour avoir une sorte de sécurité, ouais. Que ça allait être quali, assez quali, quoi.
Fallait, mais c'est devenu obsessionnel. Et je voulais pas servir de faire valoir. Je voulais pas qu'on dise à Aurel, super, t'as fait venir ton pote, mais il est pourri. Tu sors du chant des sirènes et tu nous sors un album. Je savais, tu vois, l'attente qu'il pouvait y avoir sur un projet d'Aurel quelconque, tu vois. Et je m'étais dit, faut pas que je le déçoive lui. J'ai une responsabilité envers lui, envers les Scred et les mecs qui bossent sur le projet. J'ai une responsabilité envers WAM, tu vois. Je veux pas paraître ridicule et je veux pas lui servir de faire-valoir. Je veux pas être le sidekick ou le sparring partner un peu pourri. Il y en a des groupes, tu vois, genre avec un mec toujours un peu en dedans, tu vois, ou en dessous. Et je voulais pas être ça, tu vois. Donc je me suis mis une pression de ouf et j'ai travaillé comme un taré. Il m'a vachement aidé.
Pression bénéfique, en fait.
Ouais.
Cette fois-ci, j'ai envie de dire. Ouais. Avant, ouais, la pression.
Si tu veux, ça a été. Ouais. Ça a été dans l'évolution de. Dans l'évolution de notre musique et de nos projets musicaux avec Aurel. Cette première pierre de posée là, tu vois, ça a été, pareil, une base solide qui m'a permis de, tu vois, d'être beaucoup plus en relâche sur la BO. Même s'il y a moins de morceaux, j'avais passé un cap et je chantais que dans les flows, dans les trucs, j'avais beaucoup plus de facilité. Plus de facilité aussi à déchiffrer une prod, une instru, tu vois, à l'envisager différemment que de manière droite et scolaire, tu vois, faire un truc par sécurité, un truc sécurisé, tu vois. Et là j'écris, depuis que j'écris mon album, ça fait 6 mois, 7 mois que je suis dessus, je m'éclate, tu vois, parce que j'écris vraiment des morceaux perso qui me touchent, mais je m'éclate dans les flows, je m'éclate dans le choix des prods, je chantonne un peu,
j'ai passé ce cap de confiance là, tu vois.
T'avais besoin de faire ce projet qui t'a donné la confiance nécessaire à faire ton solo, en fait.
Ouais.
Parce que le solo, c'est un truc que t'as en tête finalement depuis.
Non.
Non.
Non, j'en parle, mais c'est du bluff.
Ouais, mais
j'en
je veux dire.
J'en parlais pour moi, pour essayer de moi, je pense que je me mentais à moi-même.
T'y croyais pas, en fait.
Non, j'y croyais jamais de la vie. J'annonçais des trucs qui sortaient jamais, des machins, des. Non, puis j'étais trop bousillé, tu vois. J'étais trop perdu. Quand même, tu vois, cet équilibre que m'a apporté. La vie d'artiste que je mène depuis 4 ans, tu vois, m'a permis de faire du ménage dans ma tête, libérer de l'espace.
Mais équilibre de prendre financier, en... relationnel.
Ouais, tout. Mais c'est surtout un équilibre personnel, tu vois, te dire... je te parle d'épanouissement perso, tu vois. L'équilibre financier, ouais, j'ai gagné un peu de thunes et j'ai pas non plus changé de niveau de vie. Enfin, tu vois, je coffre beaucoup, je fais l'écureuil, tu vois. Genre, je mets de côté parce que j'ai jamais vraiment eu et que je sais que c'est des tafs éphémères, tu vois. Donc, je suis hyper précautionneux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est surtout quelque chose qui m'a apporté un équilibre, une confiance en moi, tu vois, que j'avais pas. Ou peu.
Donc, pourquoi tu penses que...
constance que j'avais pas, tu vois.
Peut-être que... Je sais pas si la question est... je pense pas que ce soit facile d'y répondre, mais pourquoi tu penses que t'avais pas confiance en toi? Parce que moi, je vais pas dire moi personnellement, parce que c'est dire deux fois la même chose. Mais moi, j'ai... je pense que j'ai un manque de confiance en moi, tu vois. C'est...
Ouais.
C'est-à-dire que je pense que je suis toujours en train de me dire c'est pas assez bien, tu vois.
Ouais, ouais.
C'est pas assez bien. Ou même quand je fais un truc bien, je vais me dire mais en fait c'était de la merde, tu vois. Et souvent j'ai besoin qu'il y ait des gens qui de l'extérieur me disent mais non c'est cool, regarde.
Ouais,
c'est bien,
mais moi j'étais hermétique au discours des autres.
Ouais.
Mes potes ils ont eu de cesse de me dire mais putain t'as du talent, mais putain tu te rends pas compte, viens on réécoute ça, je vais te montrer que c'est pas naze du tout et que t'as vraiment ta place à faire là-dedans. Et j'étais hermétique à ça, si tu veux. J'étais tellement bousillé. Et je sais pas, le manque de confiance, après, c'est un peu le... pour en discuter, mais tu vois, c'est ma vie de famille, c'est les brisures perso, c'est mon parcours, tu vois. Genre, ouais, puis à un moment donné, j'ai vraiment déconnecté. Mais quand je te dis déconnecté, c'est... puis mon époque cannaise, elle a été dure. Elle a été vachement dure parce que j'étais... quasi en rupture sociale, comme on dit, tu vois. J'avais mon quotidien se résumait à, je sais pas, je devais vivre 4-5 heures par jour, tu vois, et dormir le reste du temps. Et j'étais dans le bédo, j'étais dans le espèce de routine aliénante de trucs. Je suis un garçon dépressif, je pense qu'on est on l'est tous chacun à nos niveaux, tu vois, mais moi ça a été ça a été corsé à des moments, tu vois, et le manque de confiance que j'avais en même temps, tu vois, c'était c'était un peu les montagnes russes, quoi. C'est que des fois je me sentais mieux et d'un coup mais je pense que j'ai pas envie de parler de moi, c'est tout de suite hyper pompeux, mais
après c'est un épisode,
je suis quelqu'un
sur toi,
de sensible, tu vois, c'est ma nature d'être un mec, enfin je capte les gens assez rapidement, je pense, sans faire le mentaliste ou quoi, tu vois, je sens les gens, en fait. Il y a des choses que je m'explique pas forcément tout. Il y a des choses que je m'explique pas forcément tout de suite, tu vois. Mais je sais que j'ai des infos qui, ouais, qui m'arrivent comme ça et que je digère pas forcément dans la foulée. Mais c'est, voilà, sur les sensations, tu vois. Je suis vachement sur le ressenti, sur l'intuition. Et du coup, ça m'oppresse, tu vois. Genre le groupe, être en groupe m'oppresse, tu vois. Genre les gens m'oppressent, les masques en société m'oppressent. Il y a tellement de choses, en fait, qui m'arrivent en pleine tête, sans filtre en plus, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui je les digère beaucoup plus vite et je comprends beaucoup plus vite. Mais pendant des années ça a été très dur parce que je comprenais pas pourquoi je me sentais mal, pourquoi j'étais et vraiment c'était, tu vois, quand on dit l'enfer c'est les autres, je le vivais vraiment comme ça.
Tu voulais être tout seul chez toi, quoi.
Je voulais pas, mais j'avais pas d'autre refuge, si tu veux, sinon je me foutais en l'air. Mais j'avais pas d'autre refuge que de m'isoler, tu vois, j'avais pas d'autre échappatoire que de m'isoler. C'est vraiment ma vie privée, Mireille Dumas, putain, je me couche, je vais m'allonger sur le divan.
J'avoue, putain, je t'ai mis sur le canapé, vas-y, allonge-toi. En fait, la chanson La Morale,
c'est
sur toi.
C'est nouvelle école.
C'est nouvelle école psychologique.
Ouais, c'est ça, on est en première année d'attaque de psycho.
Oui, donc je disais, la morale, en fait, c'était bien sur toi.
Oh, je m'y suis retrouvé. Après, dire que c'est sur moi, je pense qu'Aurel s'est nourri de
ouais,
de
parce que moi, pour le coup, j'avais un pote à l'époque qui partait vraiment en couille.
Ouais.
C'était mon meilleur ami. En fait, on faisait de la musique, on était ados. Et il y a plein de merdes qui lui sont arrivées. De toute façon, il avait eu une éducation un peu foireuse. Et,
ouais.
et il est vraiment parti en couille. Il est tombé dans l'alcool. Mmh. Et c'était le mec le plus intelligent, le plus beau, le plus fort en sport. Le plus... Et donc, c'était exactement la chanson. Je me souviens que ce truc m'avait trop parlé, quoi. T'as envie de... Et puis, ouais. les gens, t'as envie de les sauver. Et...
Ouais, mais je sais qu'Aurel, je sais pas s'il en a souffert. En tout cas, je pense que ça l'a énormément frustré. Et que ça l'a foutu en colère aussi à des moments, tu vois. De me voir. De me laisser choir comme ça, tu vois, parce qu'en plus je vivais chez lui, enfin tu vois, genre, c'est à dire que c'était hyper paradoxal, c'est à dire que je me laissais crever.
Ah, t'étais comme ça chez lui?
Ouais, ben, entre chez moi et chez lui je me laissais crever littéralement, et mais je le faisais des fois chez Aurel, tu vois. Je sais pas comment le traduire, mais
ouais.
je pense que c'était pour pas totalement sombrer, tu vois, et que je savais que j'avais des potes bienveillants, dont lui. Mais il y a des moments où je sais que j'ai abusé de la situation. Il a été, c'est un pote. Hein.
Ouais.
Et il a été tolérant, quoi. Il m'a pris comme j'étais. C'est très deep ce que je viens de dire. Il m'a pris comme j'étais. Il a été hyper tolérant. Ouais.
Comment t'apportes maintenant que t'es sur donc tu vas sortir en fait ton album début 2018, c'est ça, un truc comme
ouais,
ça?
Ouais, j'aimerais bien début 2018.
Là. Maintenant que tu dis que depuis que t'as bossé avec Aurel sur le premier album, puis vous avez eu le deuxième, puis les tournées, etc. Mmh. Comment tu l'abordes celui-là? Est-ce que j'ai envie de savoir quel est ton process, quoi, ta méthode, ouais. tu vois?
Bah si tu veux.
Bon, après c'est pas le seul projet de ta vie, donc
non mais c'est quand même une pierre angulaire, tu vois, genre cet album là je sais qu'il est, puisque ce que j'y mets dedans, tu vois, c'est 15-20 piges de ma vie, enfin si c'est quand même un truc, puis c'est la musique thérapeutique en vérité, moi je le fais aussi pour je le sens comme une urgence, j'ai besoin de, et puis j'ai besoin de, si tu veux, de faire le truc pour de le faire, tu vois, pour le concrétiser, de le matérialiser, pour tuer certains démons peut-être, tu vois, genre on dit faut nommer les choses pour les détruire, tu vois, j'ai vraiment besoin de sortir ces morceaux, de me confronter au regard de l'autre, et aux avis de tu vois, aux avis de l'auditeur, des auditeurs, et le process, j'aurais pu, si tu veux, genre je sais que j'ai appris en faisant les albums avec Aurel qu'on pouvait envisager des morceaux quand t'étais dans la construction de morceaux, que tu pouvais en envisager certains pour la scène, par exemple, tu vois, genre
fais les bacs.
Ouais, genre fais les bacs, genre je sais pas, on avait des morceaux qui étaient vraiment taillés pour ça, et que c'était très malin de l'avoir fait, du coup, parce que ça te, tu peux enclencher sur des scènes derrière, et c'est un peu là que concrétise une pige de travail en studio, c'est là que tu viens prendre la température, c'est la récompense un peu, tu vois, de monter sur scène, et puis c'est une sensation sur scène aussi qui est assez indescriptible, c'est une espèce de drogue dure, voilà, c'est très addictif. Sauf que moi j'écris des trucs qui sont, je sais pas si j'aurai des morceaux de scène particulièrement taillés pour la scène, je sais que j'écris des choses dont je suis très fier, chose que j'arrive à décoffrer, j'arrive à faire mon petit puzzle, ma cuisine, tu vois, et que j'ai des morceaux dont je suis très fier. Après, je vois pas plus loin, j'anticipe pas, parce que ça je sais pas faire. Sincèrement, je suis pas un mec méthodologique, je suis pas quelqu'un de synthétique. Avoir fait tous ces projets avec mon pote m'aura appris à peut-être à construire plus mes morceaux, tu vois, et à en faire des morceaux moins décousus, plus audibles, plus aérés maintenant. Mais je sais pas ce qu'il y aura derrière, tu vois. Tout dépendra de l'accueil qu'on lui réserve. Je sais pas si je vais tourner, je sais pas si je vois pas plus loin pour l'instant. Je veux juste le finir.
J'ai envie de faire un truc bien, quoi.
Ouais, j'ai juste envie d'avoir un projet dont j'ai pas à rougir. Et après, il m'appartiendra plus. Voilà.
Et en ce moment, tu passes, c'est genre tu te lèves, tu ouais. passes du temps au studio, c'est ton activité principale.
Pas encore au studio, je vais y rentrer bientôt.
Donc là, t'écris en fait.
Là, j'ai fini d'écrire, je dois avoir quasiment 20 morceaux de côté. Après, je ferai un tri, tu vois.
Et c'est genre tu te lèves le matin tu te dis aujourd'hui je travaille, c'est ça?
Non, c'est obsessionnel. C'est-à-dire que c'est un truc qui me quitte pas en fait.
Donc, t'es tout le temps
c'est
en train
que la
de
nuit,
faire.
Tu te réveilles, t'as trois phases dans la tête, tu les couches. Tu réfléchis en rime, tu fais tout en rime, tu manges en rime, quand tu parles à des gens, t'es même pas vraiment à ce que tu dis, parce que il y a le filtre du rap qui est là, tu vois, genre, et du coup, tu, Il y a des mots qu'on peut te balancer, des trucs, tu te dis putain, ça serait mortel dans cette phrase ou ce mot-là, j'ai envie de le faire remix. Et donc, t'es.
Ça, j'ai l'impression que c'est quand tu commences à passer beaucoup. Moi, je sais qu'à une époque, j'ai commencé à coder beaucoup, tu vois.
Ouais.
Après, j'étais tout le temps en train de penser à des trucs comme ça.
Tu turbines, t'es dans une dynamique, une gymnastique intellectuelle.
Parce que je t'avais entendu parler de. Dans une interview, tu parlais de boxe. Et tu faisais un petit parallèle avec. En plus, c'était marrant parce que tu racontais l'histoire, je crois, de ton père qui te parlait du combat entre Ali et Foreman. Et moi, mon père me parlait de ça aussi, donc je me disais, c'est marrant. Mais tu liais la boxe et l'écriture, en tout cas le rap, dans un sens, dans le côté performance.
Discipline,
truc, tu vois.
De performance et de discipline.
Ouais, c'est ça.
Et d'autodiscipline, c'est un truc où il faut se discipliner soi-même. Mais je pense que tu l'as ou tu. Enfin, c'est pas que tu l'as ou tu l'as pas, c'est, ça acquiert aussi, mais je pense qu'il faut prendre conscience que, quel que soit l'artiste que t'es, et quel que soit le support sur lequel tu travailles, et l'ambition que tu y mets, tu peux le faire aussi de manière totalement compulsive, tu vois, cathartique, t'as besoin de sortir un truc. Moi, je sais que ma démarche, en tout cas, c'est de m'abandonner totalement à ce que je fais, tu vois. Comme quand je joue la comédie, à un moment donné, je me fais violence pour être dans un lâcher prise total. Ou des fois ça vient naturellement, tu vois, ça vient tout seul. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment s'abandonner, être dans l'instant, être dans l'instant et être connecté à soi, tu vois, ses émotions et ça demande de ne pas se voiler la face, tu vois, de se connaître un peu aussi, d'être bien entouré aussi, d'avoir des gens qui te renvoient aussi vraiment une image nette, précise de qui t'es, tu vois, sans tricher, sans mentir, sans la gonfler ou sans te déprécier, tu vois. Et puis ça demande du travail, quoi.
Je demandais ça, ouais.
Faut vraiment bosser. Quand je te parle de discipline, il faut bosser. Alors des fois, c'est sûr que dans le process d'écriture d'un album, des fois, t'as moins envie ou t'as vidé une première partie de ton sac, tu vois. T'as quelques morceaux.
Et dans ce moment-là, tu fais quoi? T'attends ou tu te dis non, je le fais, j'écris des choses.
Je me nourris quelque chose. Non, je me force aussi, ouais, ça m'arrive, mais j'écris rarement dans le vide, tu vois. Généralement, quand je sens que j'arrive à. Que je bute, je me nourris d'autres choses. C'est-à-dire que je bookine, ou je bouffe des films, ou je rencontre des gens, ou je sors, ou je cut complètement et je vais me nourrir. Je vais me nourrir à l'extérieur, tu vois. Je vais me nourrir d'autres choses, quoi. Et le temps aussi, c'est quelque chose d'important, tu vois. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir laisser passer du temps et se dire que le temps est nourrissant aussi, tu vois. Le temps t'aide à faire que les choses se décantent en toi, te permet de vivre de nouvelles choses, tu vois. Voilà, je pense, en plus, je vais te faire une espèce de comparaison un peu bancale, peut-être, tu vois, mais je suis avec les réseaux, avec tout, enfin cette espèce d'effervescence et cette masse d'infos qu'on bouffe et puis le fait qu'on ait littéralement la tête dans les réseaux, tu vois, je me demande où est le temps de digestion là-dedans, tu vois. Alors il y a des gens qui épongent très très vite et tant mieux, tu vois, mais moi j'ai besoin de digérer les choses, j'ai besoin qu'elles se décantent, j'ai besoin de les digérer pour les comprendre, pour les ressentir. Donc le temps, c'est aussi dans ma démarche artistique et dans ma vie perso aussi, je laisse du temps au temps, c'est fondamental.
T'apprends la patience aussi, t'es quelqu'un de patient à la base, toi?
Ça dépend. Vu que je suis un mec anxieux, je peux être. On va dire que ma fainéantiste traduit pas forcément une patience. Tu vois, je suis plutôt. Je m'ennuie assez rapidement, en vérité. Même si physiquement je le montre peu, ou que je peux être amorphe parfois, je peux m'emmerder très vite avec les gens en faisant quelque chose. Tu vois, puis parce que j'ai vachement végété. Tu vois, donc maintenant j'ai besoin de mouvement. En fait, j'ai besoin de rester en mouvement. C'est mon oxygène, voilà. Je reste en mouvement.
C'est intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est applicable à toutes les disciplines, en fait. Quand tu parlais du travail, je pense qu'il y a vraiment ce côté faire ses gammes, tu vois. Ouais. Qu'en fait, il y a pas de raccourci. Je pense qu'on cherche beaucoup tous à trouver des hacks, un peu, tu vois, des feintes, genre des raccourcis, genre il y a quelques feintes qui vont faire que je vais devenir un bon rappeur plus vite, peut-être, ou un bon écrivain plus vite, ou même monter une boîte et que ça marche plus vite avant les autres. Et en fait, je pense, avec le temps, que ces feintes marchent pas vraiment et que tu peux pas vraiment passer autour, outre le fait de faire tes gammes. Et tu sais, quand tu parles de tu fais du rap et t'as du rap tout le temps dans la tête et des choses qui se connectent entre elles quand tu parles à quelqu'un, sûrement que c'est aussi un des résultats du fait que tu as ce travail quotidien et que, du coup, aussi, ton cerveau commence à connecter, tu vois.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ouais, tu peux pas. Je pense pas que tu puisses emprunter les petits chemins de traverse. Et... Pour moi, enfin, je veux dire, ça en reviendrait à te mentir à toi, quoi. Genre, je pense que tu le fais quand tu le fais quand tu le sens, quand tu le sens prêt, quand tu le. Mais ça, je veux dire, tu faut l'expérimenter, faut pouvoir le vivre pour le savoir, tu vois. Genre, tu peux pas t'improviser chanteur ou peintre ou. Genre, il y a des connaissances, à acquérir. Il y a un travail de, il y a un travail à faire sur soi. Il y a un travail de, il y a un vrai travail pratique à faire, tu vois. Faire ses gammes comme un musicien, ou comme un sportif, comme un athlète qui tous les jours fait les mêmes gestes, tu vois.
Ouais, la Karate Kid un peu, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est comme un samouraï, tu vois, qui va, ou comme un moine bouddhiste qui va méditer tous les jours, tu vois. Il y a un vrai travail à faire sur soi et à l'extérieur de soi. Il faut rester curieux, faut travailler tous les jours, faut être alerte, tu vois. Mais tu peux pas, je pense pas que tu puisses t'improviser quoi que ce soit. Et puis, il faut le faire aussi parce que, faut le faire par passion ou par un instinct de vie, tu vois.
Comment ça, par instinct?
Moi, je le fais parce que sans ça, je pense que tu vois, Lino, il a sorti une phrase, je sais plus, il dit gâcher son talent, c'est mourir un peu, tu vois. Sans parler de talent forcément, je pense que si j'avais pas trouvé ces moyens-là pour faire que ce qu'est la vie soit moins pénible, moins chiant à endurer, tu vois. Et je me serais laissé mourir, quoi, tu vois. Genre, et voilà, c'est ces petits trucs-là, c'est des pansements que je me suis trouvé. Et donc, tu le fais par passion et aussi, en ce qui me concerne, pas par instinct de survie, tu vois, mais vraiment par instinct de vie. Je vais chercher des pulsions, j'y trouve des pulsions de vie là-dedans, tu vois. C'est ce qui me maintient, c'est ce qui fait que, j'ai la sensation de trouver cette vie moins absurde.
Tu veux que je te laisse ouvrir ton caramel?
S'il te plaît, ouais.
Parce que là,
c'est tellement bon.
Ouais, c'est un peu le piège. Tu te délectes de caramel normand. Ouais, ils sont pas faciles à ouvrir. C'est parce que ça fait un petit moment qu'ils sont là aussi.
Yes. Bon.
J'allais te dire, comment tu fais pour savoir maintenant, du coup, que tu donc t'es sur ton album et que tu t'engages en fait à le sortir.
Ouais.
C'est quoi maintenant tes critères de comment tu fais pour être satisfait? Quand est-ce que tu te dis, ok, ça c'est une bonne chanson, elle va être sur mon album?
Seulement après l'avoir enregistré. Il y a souvent un décalage entre ce que t'écris, ce que tu te chantes quand tu te chantes le truc dans ta tête ou que tu le chantes sur ton enceinte chez toi, et le moment où t'enregistres. Il n'y a jamais la même intention, il n'y a jamais le même résultat que sur le papier. Puis l'avis des autres, tu vois, compte aussi. Il faut pouvoir prendre en compte tous ces facteurs. Puis maintenant, je pense que j'ai fait suffisamment de morceaux pour me rendre compte aussi, pour savoir quand je touche à quelque chose. J'ai jamais aucune certitude sur rien. Quand je fais un morceau, je me dis pas, putain, celui-là, il te déchire, il va mettre tout le monde d'accord.
C'est trop hyper perso ou tu l'as fait écouter à tes potes? Tu l'as fait écouter à Aurel, par exemple?
Ouais.
Ouais.
Ah ouais. À Aurel, à mes potes, à mes copines. J'ai des copines aussi. C'est important d'avoir un. Alors, sans stigmatiser, tu vois, le regard d'une nana sur ce que je fais. J'ai été vraiment éduqué par des femmes, tu vois, ma tante, ma grand-mère, ma maman. Mon père était jamais
Bienvenue au club.
Troisième gamin de ma mère, presque. Et du coup, ma mère a joué le rôle des deux parents et très longtemps. Et du coup, je sais que c'est important d'être entouré déjà de femmes. Il m'apporte une espèce de sérénité, une... j'ai trouve, enfin, je me fais quand même nettement moins chier avec elle qu'avec les mecs. Mais mes potes sont mes potes, hein. Mais généralement les mecs, ils sont stigmatisants, encore une fois, tu vois, je les trouve, ils me fatiguent vite, quoi. Les postures de mecs me...
Les masques, c'est ça?
Ouais, ou les attitudes, tu vois, les réflexions, les mecs un peu, je parle un peu des mecs de base, tu vois, genre, je les trouve quand même nettement moins dégourdis que les meufs en général. C'est con, hein, je te fais un espèce de, c'est un très gros cliché, hein, pas un très gros raccourci. Mais, j'aime m'entourer de mes potes filles, tu vois. Mm-hmm. Et j'ai besoin de leur avis et quand je fais des photos pour mes réseaux, je le fais avec des potes filles, beaucoup. Les gens avec qui je bosse, c'est beaucoup de nanas, tu vois. Et c'est important pour moi. Je sais plus pourquoi on parle de ça.
Parce que quels sont tes critères en fait de c'est réussi, tu vois, les critères de satisfaction, bah, en fait.
Je pense que tu le sais vraiment jamais tant que le projet t'appartient plus, tant qu'il est vraiment dans la nature et tant qu'il est pas dans la nature et que les gens l'ont pas écouté. Tu
sais pas vraiment.
Non, je pense que le seul truc à la limite que tu puisses te dire, c'est tant que ça me plaît pour X raisons, pour des raisons qui m'appartiennent. Il y a peut-être dans mon sillon des gens qui suivront un peu le truc, tu vois.
Ouais, et puis même si jamais ça leur plaît pas, au moins tu es en accord avec toi-même parce que t'as fait un truc
que c'est ça, l'aspect premier de voir ne rien avoir à regretter sur un morceau. Mais après, des fois tu fais de la merde, hein, tu vois, genre les trucs qu'on a pu écrire avec Corel où je réécoute avec le recul et je me dis ah merde, c'était un peu facile ça, tu vois, c'était même peut-être trop fastoche.
Quoi, par exemple?
Je sais pas. C'est même pas forcément sur des morceaux style Les Putes et Moi ou Saint-Valentin ou quoi, tu vois. Là, pour le coup, c'est un parti pris, c'est une grosse connerie, machin.
Et puis, c'est quand même deux morceaux très cool.
Ouais. Après, on en pense qu'on en veut, tu vois. Ouais, mais ouais. Non, c'est plus sur des phases, des trucs. Je sais pas, sur des morceaux. J'ai pas d'exemple en tête.
Il y a Navo qui disait sur ce podcast, mais il le dit souvent, c'est il faut faire ce que t'aimerais qu'on fasse pour toi, tu sais. Que t'as envie de voir, tu vois. Et je trouvais que c'était un avis très simple et en fait très efficace.
Ouais, mais il est très. Navo, le terme génie est galvaudé, tu vois, mais
ouais.
Moi, j'ai pas cette faculté à me voir de l'extérieur ou en tout cas me mettre à la place d'eux, tu vois. Je peux tout entendre et tout comprendre et peut-être sentir les choses. Je suis peut-être plus intuitif que Navo. Navo, c'est un immense cartésien, mais il en est hallucinant, tu vois. Quand on bossait ensemble sur l'écriture des épisodes de Bloqué, c'était un mec qui, d'un coup, on avait des idées il y a des vannes qui sortaient, machin, des amorces de vannes, des trucs et tout. Il arrivait à te faire un assemblage dans la seconde de quelques, et t'en faire une vanne qui tue, tu vois, avec une chute, un truc, un effet de surprise, à te donner un effet au truc. Il est très psychologue, tu vois. C'est un mec profondément psychologue. Très, très drôle. Mais c'est une des rares personnes qui m'était donné de rencontrer, tu vois, qui m'a fait cet effet-là, tu vois. Et moi, malheureusement, je pense pas avoir cette capacité-là. Aurel, là aussi, quand il écrit, par exemple, il est capable de parler à la troisième personne, de se mettre à la place d'eux, ou de se rentrer dans la peau d'un personnage. Moi, pour l'instant, je sais pas faire. Et puis, je ne saurais jamais faire, tu vois. C'est pas grave.
Et alors, du coup, maintenant, t'es plus, le truc qui t'enthousiasme le plus, c'est de jouer à la comédie ou c'est de faire du rap?
Oh, c'est deux.
T'as envie de sortir l'album et le rap, c'est done ou t'as envie...
Je sais pas encore. J'aime bien l'idée de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Après, je sais même pas vraiment, tu vois. Quand t'es casseur-flotteur avec Aurel et tout, c'était sous l'aile du dragon. T'as un confort, t'as une visibilité. Là, je sais que je vais repartir de tout en bas, tu vois. Et donc, j'ai aucune idée de comment va être reçu l'album et de comment il va vivre. Je sais juste que c'est tellement deux activités. Deux activités qui me font du bien chacune. Chacune, que j'ai pas envie de m'arrêter, d'arrêter l'autre. Le cinéma, c'est tellement nouveau que je sais pas encore. Je pense que je vais continuer à en faire, tu vois. On verra ce qu'on me propose et c'est super. J'ai un agent depuis Comment c'est loin. J'ai tourné dans Carbone qui sort en novembre et j'ai tourné dans deux autres longs métrages cet été, tu vois. Donc c'est super. Je découvre ce métier-là. J'adore ça. C'est des sensations uniques. C'est comme monter sur scène quand je rappe. C'est une des sensations qui tu retrouves nulle part ailleurs. Mmh. Le cinéma, c'est pareil quand je joue. Et donc j'ai une chance immense de pouvoir goûter à ça. Et voilà. Et si ça pouvait durer, ce serait pas mal.
Ok. Ouais. Bon, on arrive sur les questions de la fin que parfois je pose pas, mais là en fait, on arrive sur la fin de l'interview.
Chaud, coquine ou chantier,
non. Non, je voulais te demander.
Tente tes petits
antipodes. Vas-y. Alors, choisis bien.
Ouais, il y en a au café, jamais de la vie, mon pote.
Ah ouais.
D'ailleurs, celles-ci, ils sont.
Vanille, c'est
sont
pas
en
mal.
Majorité. Ah, c'est la vanille, ça.
Vanille, c'est bien. En fait, il y a plus de noisettes qui étaient de loin les meilleures. Mais bon.
T'as fait ton écureuil, hein.
Prochaine fois. Ouais, j'allais te demander. C'est quoi le truc dont t'es le projet dont t'es le plus fier jusqu'à présent, ou le truc dont t'es le plus fier là?
Il n'y en a pas un en particulier. Il n'y en a pas un en particulier. Je suis fier de tout ce que j'ai fait pour des raisons différentes à chaque fois. Ouais, c'est tout.
C'est stylé quand même que vous avez eu, avec Aurel, vous avez eu, tu sais, tout le concept casseur-flotteur et ensuite surbloqué, c'est tout le même concept de deux mecs qui traînent. En fait, vous avez réussi à l'exploiter sur plein de formats différents.
Ouais, mais c'était pas prévu, quoi.
J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, tu vois, tu te dis, vous auriez pu faire juste l'album. Et en fait, avec une idée, bah, vous l'avez décliné sur une série, un film,
c'est
deux
pas
albums.
Nous, forcément, tu vois. Bloqué, c'est quand même beaucoup Kian Navo. C'est même beaucoup leur idée, tu vois. Et le film, c'est Aurel. À un moment donné, il est parti dans l'écriture de ça. Et, ça a mis le temps que ça a mis, mais c'est vrai qu'après le film, du coup, on a enchaîné sur la BO, tu vois. C'était un truc qui nous semblait cohérent. Mais c'est vrai qu'on n'avait rien anticipé après le premier projet Casseur Flotteur. Après le premier album, on s'était pas dit qu'on ferait tout ça, tu vois. C'est vrai que c'est une chance, quoi. On a vraiment eu du pot. Enfin, moi, en tout cas, à ma place, j'ai vraiment eu vachement de bol que tout ça arrive derrière, quoi.
Ouais, j'ai l'impression que t'as l'air en tout cas, t'as l'air plus heureux maintenant.
Ouais. J'ai souvent été suiveur et j'ai souvent attendu qu'on vienne me chercher. Tu vois, après le premier projet Casseur Flotteur, j'ai rien initié vraiment. Tu vois, je m'étais dit, putain, mais qu'est-ce que je vais faire après la tournée?
Retour de l'angoisse.
Ouais, je vais me faire chier, retour de l'angoisse, retour à la case départ. Et mine de rien, tu vois, le fait de m'impliquer dans l'écriture de Bloqué, mais dans le jeu, de m'être impliqué à fond dans Commencer Loin, j'ai adoré cette expérience-là, tu vois, je me suis, et puis je t'ai dit, peut-être quelques petits automatismes modestes, tu vois, de jeu, parce que j'ai beaucoup observé, mais je suis archi pas un comédien de formation, tu vois. C'est juste que tout ça, ça m'a quand même donné le goût du boulot et l'envie de faire les choses aussi par moi-même, petit à petit.
Il y avait une question que je posais avant, que j'avais arrêté de poser, mais je vais te la poser. C'est une question qu'ils posent aux gens en entretien chez Facebook.
Ouais.
Ils leur disent, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur?
Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur?
Ouais.
Sincèrement, connaissant ma nature oisive, la même chose.
La même chose.
Ouais.
Et dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à Guillaume à 20 ans, genre?
Qu'est-ce que je lui dirais à 20 ans? Je pense que c'est marrant parce que je te faire une comparaison, je me suis souvent posé la question, je me suis souvent demandé pourquoi à 20 ans, pourquoi nos grands frères, nos parents, des gens qui ont plus d'expérience autour de nous ne nous parlaient pas plus de leur déboire, tu vois, des épisodes douloureux de leur vie, sentimentaux, familiaux, enfin des... Tu parles de choses vraiment concrètes, de problèmes concrets qu'on peut traverser, tu vois, de mise en garde. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir dû me ramasser des tonnes de fois, vraiment bien, de me prendre de vraies grandes claques existentielles pour comprendre, tu vois, et pour avancer, pour pas reproduire forcément les mêmes choses, pour instinctivement me tourner vers des personnes qui me correspondent mieux. Et du coup, si je croisais le Guillaume de 20 ans, je le mettrais en garde. Je le mettrai en garde. Et je pense que j'essaierai de le rassurer. Surtout. Je commencerai par essayer de le rassurer.
Eh ben, merci beaucoup, Grange.
De rien, Mireille, Dumas. Ça m'a fait bien plaisir.
Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent juste en savoir plus sur toi? Parce que
j'ai qu'un moyen de communication et je m'éclate dessus, c'est mon compte Instagram.
Gringe.
C'est gringe-du milieu officiel, je crois. Mais on me trouve facilement et c'est le seul truc vraiment. J'ai une page Facebook, mais je m'en sers peu. Et c'est vraiment mon compte Insta, je poste assez régulièrement dessus.
Ok, top. Et ben, merci beaucoup.
Ah, merci à toi. Merci pour les caramels.
Pas de problème.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.